exiger que tout projet de réorganisation de l'État comporte le vote des femmes. Merci.
Bonjour, aujourd'hui dans Le Fil de l'Histoire, troisième épisode de notre série où avec l'historienne Anne-Sara Bouglé-Moalic, nous tentons de répondre à cette question lancinante. Comment se fait-il que les Françaises aient dû attendre 1944 pour obtenir le droit de vote ? Nous l'avons vu, la Révolution française est restée sourde aux revendications des femmes. Plus surprenant, la Révolution de 1848 instaure enfin le suffrage universel, mais seulement masculin. Il faut attendre la Troisième République pour que le débat et le combat reprennent. En septembre 1870, après près de 20 ans de Second Empire, la République est enfin de nouveau proclamée. Mais l'heure n'est pas franchement aux revendications des femmes. Au contraire, l'épisode de la Commune, où les femmes ont pris une large part, a laissé une mauvaise image des féministes, assimilées à de dangereuses révolutionnaires, violentes, laides et immorales, qu'on surnomme les pétroleuses. Un amalgame qui pourtant ne tient pas vraiment. La communarde anarchiste Louise Michel, par exemple, n'a que mépris pour le parlementarisme et pour le suffrage universel, même féminin. Qu'importe aux malheureuses qui meurent de faim l'entrée triomphale de quelques-unes dans les palais où l'on légifère, s'exclame Louise Michel. Il n'empêche, l'image de la féministe pétroleuse va avoir la vie dure sous la Troisième République. Il va falloir tout le courage et l'inventivité d'une nouvelle génération de militantes pour remettre sur le tapis la question du droit de vote des femmes que l'on croyait à jamais enterrée. La lutte va être féroce.
France Inter, Le Fil de l'Histoire, Stéphanie Duncan.
De cette génération, Hubertine Auclair est sans doute la personnalité la plus marquante. En 1872, Hubertine Auclair, orpheline de 25 ans, lit un jour dans le journal un texte de Victor Hugo qui la bouleverse. « La femme, écrit Hugo, ne vote pas, elle ne compte pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. C'est là un état violent, il faut que cela cesse. » Une révélation pour cette jeune fille qui va faire du droit des femmes le combat de sa vie. À cette époque, les féministes se battent pour obtenir les mêmes droits civils que les hommes. Mais pas pour le droit de vote, une revendication jugée désormais extrémiste. Hubertine Auclair, elle, considère qu'il ne faut pas avoir peur de mener les deux combats de front. Elle prend la parole dans des meetings, multiplie les pétitions auprès des députés et des sénateurs qui la considèrent avec dédain. L'un d'entre eux déclare à propos d'Hubertine Auclair « Regardons-la comme l'illusion d'un cœur sensible et aventureux et ménageons-la sans espérer la guérir. » Mais la jeune femme n'entend pas guérir. Elle va même mener des actions illégales. En 1880, elle refuse de payer ses impôts. L'année suivante, elle boycotte le recensement. « La femme, dit-elle, est un être à part qui naît avec beaucoup de devoirs et pas de droits. Il est temps de sortir de l'indifférence et de l'inertie pour réclamer contre les préjugés et les lois qui nous humilient. » Anne-Sara Bouglé-Moalic, les féministes françaises sous la Troisième République bénéficient d'un contexte nouveau. À partir des années 1890, des pays étrangers commencent à légaliser le droit de vote féminin, notamment les États américains. En plus, les organisations féministes s'internationalisent, les militantes se rencontrent et échangent lors de congrès. Cela doit remonter le moral des Françaises, non ?
En tout cas, ça les encourage à poursuivre le combat. Nos voisins anglais travaillent fortement sur la question et on voit dans la presse qu'il y a beaucoup d'échos de ce qui se passe dans le combat qui est mené au départ par le philosophe John Stuart Mill, qui fait des propositions de loi régulièrement au Parlement britannique. Et oui, on voit bien que ce qui se passe ailleurs, notamment en Nouvelle-Zélande, est étudié par des féministes à ce moment-là. Mais on sent quand même que au-delà de ce qui se passe à l'étranger, il y a une spécificité du mouvement français qui ne cherche pas que l'inspiration ailleurs et qui arrive à se mettre en avant, à revendiquer, à avoir de la place dans la presse. Et on sent qu'ils arrivent au fur et à mesure à créer un intérêt qui, certes, provoque encore du mépris chez un certain nombre de personnes, mais on sent poindre quand même un espoir, surtout vers les années 1890, quand les associations féministes commencent à toutes revendiquer le droit de vote, ce qui en effet n'était pas le cas au début de la période.
Hubertine Auclair et ses camarades mènent des actions d'éclat, on l'a vu, parfois illégales, mais elles ne sont jamais violentes. Alors qu'est-ce qui les distingue des suffragettes britanniques? Certaines font des grèves de la faim, d'autres vont même jusqu'à jeter des bombes sur des parlementaires britanniques parce qu'ils refusent le droit de vote aux femmes. Alors pourquoi les féministes françaises, elles, ne commettent-elles pas d'actions violentes?
Les suffragettes britanniques, qui déjà agissent sur une toute petite période dans les années 1910 et sont en fait une marge radicalisée du mouvement suffragiste, qui est un mouvement beaucoup plus ancien, vont avoir des actions, mais qui sont des actions terroristes. En effet, poser des bombes, mettre de l'acide dans les boîtes aux lettres, abîmer des œuvres d'art. Elles sont vraiment dans cette radicalité. Les Françaises, elles, mais comme dans tous les autres pays du monde, refusent ces actions violentes et elles veulent montrer qu'elles sont respectueuses de la République dans laquelle elles veulent s'intégrer et que donc elles ne sont pas des briseuses de loi. Au contraire, elles veulent s'intégrer et essayer de convaincre par la force de leurs arguments, par leur calme, montrer qu'elles seront de bonnes citoyennes. Elles et c'est en ça qu'elles se distinguent.
Elles sont républicaines.
Elles sont profondément républicaines d'un bout à l'autre de ce combat en faveur du droit de vote, oui.
C'est à vous surtout, hommes qui m'entendez, que j'adresse un ardent appel. Socialistes, républicains, ligueurs, depuis que la République est née, vous croyez la défendre en interdisant son accès à celles qui feront de vos fils des hommes. Vous avez trouvé des prétextes, vous n'avez qu'une raison. Les Françaises, dites-vous, sont sous l'influence de l'Église.
C'est un extrait d'un discours de Germaine Picard-Mock en 1936, mais c'est un argument qui, déjà à la fin du 19e siècle, est avancé par la gauche pour refuser le vote aux femmes. On dit que les femmes sont sous l'influence de l'Église, des curés. C'est un argument évidemment de la gauche, mais qu'en est-il exactement?
Alors, vous voyez qu'on a une difficulté, parce que tout à l'heure, on disait que l'argument, c'était que les femmes étaient des dangereuses révolutionnaires. Et là, tout d'un coup, elles sont des dangereuses religieuses. On va faire feu de tout bois contre le vote des femmes, notamment les radicaux, donc cette branche de la gauche française très républicaine, qui est extrêmement anticléricale et qui est surtout très protectrice d'une république qu'ils voient comme très pure. Et ils sont très inquiets de ce que pourrait représenter l'apport d'une moitié de la population, puisque en 1848, le suffrage universel a provoqué l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, qui a fait un coup d'État qui a mis fin à la République. Donc là, ils vont essayer de chercher tous les arguments qui pourraient faire en sorte que les femmes ne votent pas. Il est vrai que les femmes ont une pratique religieuse plus importante que celle des hommes, ce qui arrange aussi les hommes qui les encouragent dans cette pratique religieuse, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles seraient soumises à l'influence des curés. Et par ailleurs, ce qui vient prouver que cet argument est un peu fallacieux, c'est qu'on dit aussi beaucoup que de toute façon, les femmes voteront comme leur mari. Donc si leur mari est républicain de gauche, il faut m'expliquer comment est-ce qu'elles voteront à la fois comme leur mari et comme leur curé.
La Première Guerre mondiale marque une rupture. D'abord, Union sacrée oblige, elle met un terme aux revendications des femmes. Mais le travail des femmes, qui remplace les hommes dans les usines, dans les champs, et qui doivent seules s'occuper de la famille et gérer les biens, amène à considérer enfin avec sérieux le vote féminin. En Grande-Bretagne, les femmes peuvent voter en 1918. Mais en France, il faudra encore attendre, car les vieilles résistances vont freiner des quatre fers. Merci Anne-Sarah Bouglé-Moalic. On poursuit cette discussion dans le prochain épisode. Nous verrons comment, dans l'entre-deux-guerres, les sénateurs vont faire obstacle au droit de vote des Françaises.